Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de notre émission quotidienne sur les correspondances de Manosque. Nous retrouvons François Malabave et ses invités pour une heure correspondance. Bonjour François.
Bonjour James, bonjour à tous. Et oui, une heure pendant le festival littéraire des correspondances de Manosque, c'est tout de suite avec beaucoup d'invités cette fois-ci. Nous entendrons bien sûr le directeur des correspondances Olivier Chaudançon présenter le programme de la journée. Nous aurons le plaisir d'accueillir aussi le dessinateur entre guillemets des correspondances Charles Berberian qui est venu avec sa guitare car il est musicien également. J'aurai le plaisir de recevoir Aura Xilonen qui est une écrivaine mexicaine et elle sera aidée de Sonia Jean qui assurera la traduction et puis j'aurai le plaisir aussi de recevoir Iliana Ristova pour les médiathèques de la DLVA ainsi que deux comédiennes, Caroline Vidal et Bernadette Résimon, qui proposent des spectacles à Manosque. Et puis, partie émotion aussi, nous recevrons Serge Ranco pour parler d'un hommage, entre guillemets, à Mathieu Riboulet. Et nous entendrons, bien sûr, Barbara Carlotti qui chantera une chanson qu'elle a écrite avec Mathieu Riboulet. Une très bonne émission sur les correspondances à tous. Et on ouvre tout de suite ce deuxième numéro des 20e correspondances de Manosque La Poste par Olivier Chaudançon, donc le directeur des correspondances, qui nous présente le programme de la journée. Olivier Chaudançon, la 20e édition des correspondances, c'est parti.
C'est parti, c'est déjà assez dense pour un jeudi. On commence à 11h avec, non pas les apéros littéraires, mais le labo de l'édition. Alors on commence à avoir cette habitude-là. Les membres du comité de lecture sont placés dans la position d'un éditeur. Ils ont à découvrir 3 manuscrits que l'éditeur a donnés et à eux de se prononcer. Faut-il le publier ou pas et selon quel argument? Et cette année, on va travailler avec les éditions du Chemin de Fer et les membres du comité de lecture vont nous donner leur avis. Dans l'après-midi, beaucoup de rencontres possibles. Une rencontre entre des auteurs de premier roman, Estelle Sarabul, dont on parle beaucoup, Abnous Chalmani, la sieste littéraire, évidemment, ça c'est un incontournable. Et puis les grands entretiens, donc cette façon de reconstituer des moments de télévision, de grands auteurs ont répondu à des entretiens façon Bernard Pivot. Après Giono et Beauvoir, hier mercredi, nous allons assister aux grands entretiens de Simenon et de Marguerite Duras. Un peu plus tard dans l'après-midi, à 16h30, notre ancien résident, Miguel Bonnefoy, franco-vénézuélien, si je ne me trompe pas, dialoguera avec une jeune auteure mexicaine, Aura Xilonen, choisie par la médiathèque d'Herbès et par beaucoup de gens à Manosque, je crois, un très beau livre. En même temps, dialogueront Sophie Divry et Antoine Wauters, deux livres très puissants qui nous racontent le monde après une sorte d'apocalypse. Sophie Divry, c'est un personnage qui se retrouve seul après une catastrophe qu'on pourrait supposer nucléaire et qui devient une sorte de Robinson Crusoe et se pose la question jusqu'à quel point on reste dans son humanité lorsqu'on est seul et confronté à ce monde dévasté. Et puis Antoine Wauters n'est pas très loin puisqu'on est dans un Paris post-apocalyptique avec quelques bandes qui traînent et s'entretuent pour survivre. Pas très joyeux, mais beaucoup de littérature quand même. Il faut aller voir ça, c'est intéressant. Et puis, toujours à la même heure, et chacun choisira son camp, une nouveauté, des joutes de traduction que l'on a conçues avec le Collège des traducteurs d'Arles. Alors là, ça va être assez impressionnant. Deux grands traducteurs, Agnès de Sarthe, qu'on connaît aussi parce qu'elle est romancière, et Santiago Artoski, qui est le président du Collège des traducteurs d'Arles, vont s'affronter pour traduire une chanson de Cole Porter. Une chanson réputée impossible à traduire. Donc on va voir comment ils s'en sortent. Et puis il y aura évidemment des textes, des propositions de textes, et puis de la musique, et puis peut-être du chant même. Agnès de Sarthe, elle chante bien. Enfin, je le dis comme ça en passant. Retenez-le si vous voulez. À 18h, un chanteur devenu écrivain, il est toujours chanteur, mais il est aussi écrivain, Dominique A. Son nom d'écrivain et son nom d'état civil, Dominique Annet, nous parlera de son nouveau livre, Ma vie en morceaux, publié chez Flammarion. À la même heure, 18h, Jean-Christophe Bailly, grand auteur, essayiste, penseur, qui vient pour la première fois à Manosque. Et puis, toujours à la même heure, une lecture dans la petite salle du théâtre Jean le Bleu, Delphine de Vigan et Nathalie Kuperman, qui ont tressé ensemble avec leurs deux textes une lecture à deux voix. La soirée va être forte puisque on revient sur finalement la première édition des correspondances de Manosque avec cette magnifique correspondance de Jacques Higelin, lettre d'amour d'un soldat de 20 ans. Alors évidemment, c'est pas Jacques Higelin cette fois-ci, hélas, par la force des choses, mais c'est le grand comédien Mathieu Amalric qui va lire ça et il sera accompagné par Mahu, musicien qui accompagna longuement Higelin et puis d'autres comme Lavilliers ou Barbara par exemple. Donc ça devrait être une soirée très forte. Soirée qui va durer tard puisque en deuxième partie de soirée à 22h45, nous avons le plaisir de recevoir Juliette Armanet qui sera en compagnie de Barbara Carlotti. Elle, on la connaît bien au festival. Juliette Armanet, c'est pour la première fois. Et puis la comédienne Pauline Jambet pour un concert littéraire intitulé « Correspondance amoureuse ». On va passer d'une chanson à un texte, d'un chant à une lecture.
Le programme de la journée par Olivier Chaudançon et le programme de la journée sur Fréquence Mistral, c'est l'émission qui a lieu en direct actuellement et j'ai le grand plaisir d'accueillir le dessinateur. Il a fourni une magnifique affiche pour cette 20e édition des correspondances. Il s'agit de Charles Berberian. Bonjour Charles.
Bonjour.
Je vous ai déjà accueilli ici même, oui. C'était il y a quelques temps. Mmh. Quand on doit dessiner pour de la littérature, on a une approche particulière ou pas?
Non, moi j'aime bien dessiner, donc tous les sujets, tous les points de départ, tous les déclics sont bons. J'ai même parfois pas besoin de déclics particuliers pour me mettre à dessiner, mais la littérature, c'est des ambiances, c'est des impressions, des sentiments, des histoires, donc tout est là pour l'inspiration.
Et votre affiche pour ce 20e festival, évidemment, il fallait pas la louper, et vous ne l'avez pas loupée, c'est une place.
Merci.
De Manosque, ça nous fait plaisir, ça.
Ben, c'est la place de l'Hôtel de Ville.
Et oui, avec un arbre, avec du feuillage aussi, ça tombe bien, en septembre, il y en a encore, des feuilles, c'est bien, et c'est de l'observation, le dessin aussi.
J'ai eu la chance donc d'être invité il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'étais venu à votre émission pour la première fois, à l'initiative d'Evelyne Pravillo et Olivier Chaudançon, pour dessiner le festival, pour dessiner l'ambiance du festival. Donc quand Evelyne m'a demandé de proposer une idée pour l'affiche, j'ai tout de suite eu envie de dessiner cette place et la scène qui est absolument remarquable avec tous les livres qui dansent
et qui sont un peu de quinquois, hein, les livres.
J'adore ce rythme des livres derrière les gens qui sont en train de parler de livres. Enfin, moi je suis un... J'adore les bouquins, je fais des efforts insensés pour ne pas en acheter trop tous les jours. J'essaye de lire à la vitesse où je les achète, mais bien sûr c'est difficile. Et puis c'est très très graphique, les bibliothèques, les... voilà.
Charles, vous êtes aussi musicien. On vous croise dans la rue avec une guitare sur le dos et pour cause, vous participez aussi aux siestes de notre ami Bastien Lallemand avec votre guitare. Donc un peintre, dessinateur qui joue, qui chante et qui lit. Vous avez plusieurs cordes à votre arc.
On peut voir ça autrement aussi, c'est-à-dire que pour moi le dessin c'est comme de la musique, c'est la même chose. Le trait de crayon c'est la voix du dessinateur, et un musicien dessine soit avec son instrument et le dessinateur fait de la musique avec son crayon. On peut voir ça comme ça. Je vois ça de plus en plus comme ça, en fait. Ça me plaît de confondre les deux activités.
Et le musicien vous dira peut-être, il joue avec son pinceau. Peut-être.
De toute façon, là, on parle de gamme chromatique aussi bien en musique qu'en dessin ou en peinture. Donc les termes se confondent.
Ouais. Vous participez à ces siestes. Depuis longtemps, vous participez aux siestes de Bastien ?
Il m'a contacté vers 2010. Il m'a invité à participer à un concert dessiné, à une carte blanche que lui accordait la scène nationale de Dijon. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Bastien. Et le lendemain du concert, il y avait une sieste acoustique au théâtre même, et à laquelle j'ai participé. Et j'ai commencé par m'endormir. Donc il m'a réveillé d'un petit coup de pied en me disant « Vas-y, c'est à toi, quoi ». Et j'ai adoré cet après-midi de la veille qu'on a passé ensemble à répéter avec son orchestre. Ces chansons, c'est quelque chose, c'est un endroit, c'est une espèce d'endroit où j'adore être, quoi, et qui est très, ces chansons sont très inspirantes. Donc quand je me suis retrouvé sur scène entouré de sa musique, des musiciens et tout ça, ça a été un plaisir de dessiner en accompagnant.
Et devant un public couché en plus, ce qui doit être assez étonnant pour les musiciens. Mais ils commencent à avoir une certaine habitude.
Alors le concert de la veille, c'était pas un concert où le public était couché. C'était un concert normal. Il dessine pas. Il ne fait pas de la musique que devant des gens couchés. Mais
heureusement. Ouais. Mais enfin, ce principe des siestes littéraires, et je le dis à nos auditeurs, si vous avez encore jamais participé à ces siestes, et maintenant on peut participer, on peut être sûr d'y aller, puisqu'il faut s'acquitter d'un droit d'entrée qui vous assurera d'avoir une place. Allez-y, c'est assez étonnant, avec toujours des surprises et des auteurs. Hier, il y avait des auteurs qui ont participé, Charles.
Arnaud Catherine et Colombe Bonsaine.
Rien
qui,
que ça.
Qui sont
super.
Aussi. Et Camélia Jordana, qui a participé à des siestes, disait que c'est un privilège d'accompagner le sommeil des gens, quoi.
Ouais. Voilà. C'est une belle chose et une remarque tout orientale en plus de dire ça. Oui. C'est parfait. Merci beaucoup, Charles.
Merci
et puis,
à vous.
Bonne correspondance. Vous restez avec nous, bien sûr, si vous le souhaitez. Je vais accueillir maintenant une personne assez étonnante parce qu'elle est toute jeune. Il s'agit d'Aura Shilonen. C'est comme ça qu'on prononce.
Aura Shilonen.
Mm. Ravi de vous accueillir. C'est une jeune auteure mexicaine. Et puis je vais demander à Sonia Jean, qu'on connaît bien ici à Manos, puisque Sonia travaille à la Casa Latina. J'espère avoir eu un bon accent. Merci aussi beaucoup, Sonia, d'assurer la traduction de Aura Shilonen. Et à côté, il y aura aussi Iliana Ristova. Et je vous expliquerai pourquoi Iliana Ristova est ici. C'est tout simplement parce que Aura Shilonen est dans le cadre d'un Manosque, dans le cadre tout simplement d'un prix, du prix des médiathèques. Elle concourt à ce prix avec trois autres écrivains. On va demander peut-être à Iliana tout de suite de nous dire quel est l'objectif de ce prix et quels sont les écrivains avec Aura qui sont sollicités.
Bonjour. L'objectif du prix des médiathèques, c'est de faire découvrir à nos lecteurs des textes nouveaux, des textes qui n'ont pas été forcément encore repérés, d'où trois premiers romans sur quatre livres en lice, autour du thème « Une terre, un ailleurs ». Donc, vous allez découvrir avec ces romans, vous allez faire plutôt des voyages dans le temps, dans l'espace, notamment avec le roman de Christiane Moreau, La Sonate oubliée, édité chez Prélude, qui raconte l'histoire de deux jeunes filles qui sont reliées avec leur passion de la musique. Vous allez découvrir par l'intermédiaire d'une histoire familiale l'histoire de la Finlande avec le roman « Là où se croisent quatre chemins » de Tommi Kinnunen, édité chez Albin Michel. Et faire un voyage en Antarctique avec le roman de Jean-Pascal Collégia, édité chez Sur le fil, qui s'intitule « Comme un tigre par la neige brûlée ». Et j'ai gardé à la fin notre auteur qui est invité aujourd'hui, le roman Gabacho d'Aura Shilonen, édité chez Liana Levy, qui raconte l'histoire d'un jeune immigré mexicain aux États-Unis qui part à la poursuite de ses rêves américains.
Alors, ce qui est intéressant dans ce prix que vous distribuez avec la DLVA, c'est qu'on est complètement en dehors de tous les intérêts économiques liés à l'édition et aux autres prix littéraires, et ce sont les lecteurs qui décident, selon la proposition que vous leur faites. Et ça, c'est très important.
On a voulu le prix vraiment en dehors de tous ces enjeux-là parce que notre objectif, comme je viens de le dire, c'est de porter des textes que nous, bibliothécaires de réseau, ont particulièrement appréciés et aimés. Et en effet, ce sont les lecteurs qui peuvent retrouver les quatre livres en lice dans leur médiathèque. Et c'est eux qui votent. Ils ont cette possibilité jusqu'à 10 novembre pour choisir leur coup de cœur.
Alors, c'est une opération qui se déroule sur tout le territoire de la DLVA, faut-il le préciser, 26 communes ou 25, je ne sais plus combien on en est.
Dans les 20 médiathèques.
Et dans les 20 médiathèques du territoire, ce qui est énorme. Et il faut évidemment utiliser les médiathèques qui sont des endroits de culture et d'échange sur le territoire. Il faut en profiter. Et ça me permet d'ailleurs de saluer votre directrice Claire Zara et toute son équipe qui fait un travail remarquable, dont vous-même, Iliana. Et vous avez très bien présenté cette opération. Et on va parler avec maintenant Aura Shilonen de son livre Gabacho, qui est paru chez Liana Levy. Alors, c'est l'histoire de Liborio, un jeune immigré mexicain vivant aux États-Unis et qui va suivre un parcours initiatique chaotique dans lequel il croise de nombreux personnages. Il travaille chez un libraire, le boss, qui l'héberge et découvre la lecture à travers des revues et un dictionnaire. Il va croiser l'amour avec Irene, mais pas sans problème. Liborio n'a peur de rien, il ne mesure pas le danger. Doué pour la baston, il deviendra boxeur et devra faire travailler son corps et son esprit. Plusieurs personnes vont l'aider, le boss et ses maladresses, Monsieur Habacuc qui lui ouvrira sa pension, W, une journaliste délurée, Bald qui l'entraînera, Madame Marshall, la bienfaitrice impressionnée, etc., etc. Mais dans ce livre, écrit avec verve et au vocabulaire très cru, on en parlera dans un instant, on touche la misère intellectuelle et sociale, la violence quotidienne, l'obligation de survivre, la situation des migrants, ces latinos qui tentent l'aventure au state, louent leurs bras, craignent la police, crèvent de faim et de froid, et dont l'avenir est bouché et à très court terme. Première question à Aura Shilonen, comment vous est venue cette envie d'écrire un roman avec pour toile de fond les émigrés mexicains?
Buenos días a todos. Bueno, pues en realidad las ganas de escribir llegaron a mí desde... Fue como, primero empezó una tarea a los 7 años y para cuando empecé esta novela, que ya tenía 16 años, pues esa tarea se convirtió en un hábito y mi cuerpo me lo pedía.
Donc bonjour à tous, bonjour François. Donc elle explique que ça a commencé, l'écriture, ça a commencé avec des tâches que lui donnait sa tante en Allemagne à l'âge de 7 ans. Elle devait écrire des lettres à sa famille au Mexique. Et après, à 16 ans, elle s'est mise vraiment à écrire, c'est devenu comme une habitude. Et c'est là qu'a commencé Gabacho.
C'est à ce moment-là, à partir de 16 ans, qu'elle a commencé à écrire ce roman.
¿16 años que empezaste a escribir esta novela? Sí, fue alrededor de 3 años porque la finalicé a los 19, que fue cuando se publicó la novela.
Oui, ça a duré à peu près 3 ans parce qu'elle a commencé à l'écrire vers 16 ans et la fin du livre a été faite à 19 ans.
Alors comment une adolescente mexicaine se documente et se renseigne sur la vie des migrants mexicains, notamment cette magnifique scène dans le désert où il fuit la police?
Bueno, pues Puebla, el estado en el que yo vivo, es el estado con mayor flujo de migración de todo México y pues tuve muchos testimonios de personas que trabajaron para el negocio familiar.
Donc Puebla, la ville dans laquelle elle vit, est un des endroits où il y a le plus de flux migratoires justement vers les États-Unis et du coup elle a eu accès à un grand nombre de témoignages.
Además nací en una época tecnológica y pues tengo la internet, la televisión, las películas, libros y pues al final todo eso se convirtió en el gabacho.
Et en plus elle vit dans une époque très très axée sur internet, les nouvelles, la presse, etc. Et du coup tous ces éléments l'ont aidé à créer cette ambiance de Gabacho et ces scènes très réalistes.
Il y a un élément dans le roman Gabacho qui est important, c'est la boxe. La boxe qui servira d'une sortie en quelque sorte pour Liborio. Vous êtes fasciné par la boxe, Aura?
Pues sí, es un deporte en el que los mexicanos nos consideramos buenos porque... pues Los mexicanos son buenos en el box, entonces, pero además de esa fascinación que existe en México, también considero que el boxeo es el deporte de los pobres, porque cualquier niño en México, por unos cuantos pesos, se enfrentará a la muerte, porque un mal golpe puede tumbarlos para siempre.
Donc, oui. Elle est fascinée par la boxe, mais elle considère aussi que les Mexicains sont assez forts dans ce domaine. Donc il y a une espèce de fascination par rapport à ce sport. Mais aussi, elle considère que c'est un sport de pauvres, entre guillemets, puisque c'est ce qui permet à certains Mexicains, avec quelques pesos, de participer à un combat, même si ça peut les mener jusqu'à la mort, malheureusement. Mais ça, ils peuvent aussi bénéficier de quelques pesos s'ils gagnent le combat.
Et c'est ce qui va arriver à Liborio, d'ailleurs, à la fin du livre, où il est pratiquement sorti de l'ornière grâce à ce sport particulier. Alors, un autre élément aussi qui est important dans ce roman, ce sont les livres. Les livres, puisqu'il les croise évidemment chez le boss, ou bien à la bibliothèque après, quand il sera recueilli dans un foyer. Les livres, donc, qui peuvent sauver des vies. Et puis, il a appris à lire quasiment dans un dictionnaire. Vous l'avez inventé, ça, Aura ?
Sí, bueno, los libros, la literatura es otro personaje de la novela, porque Liborio se sumerge en ellos, pues cada libro es un universo diferente que desconocíamos hasta que lo leemos. Entonces Liborio evoluciona intelectualmente, emocionalmente y físicamente también a través de los libros.
Donc oui, elle considère que la littérature dans son roman, c'est comme un autre personnage, un personnage de plus de son roman finalement. La lecture et la littérature, c'est un univers très différent et dans lequel on remarque tout au long de son roman l'évolution de Liborio à travers l'apprentissage du coup et le goût aussi à la littérature et à la lecture.
Alors dans ce roman, il n'y a pas que Liborio, même si c'est le gabacho du début et du titre, il y a aussi des personnages de second plan plutôt positifs, entre guillemets, et attachants. Le boss, par exemple, avec ses maladresses. Il y a aussi Deluré, c'est une journaliste américaine qui apportera sa touche pour sauver Liborio. La bonté sans fin d'Abacuc, c'est le patron d'une pension très, très accueillante. Et puis, il y a un personnage, et selon moi, c'est mon personnage préféré dans ce livre, c'est un ange blessé. Naomi, c'est une jeune fille, magnifique d'innocence, apparente. Tous ces personnages, ça se regroupent autour de Liborio.
Sí, en realidad, los personajes son las manos extendidas que cualquier migrante, que cualquier niño migrante del mundo necesita. Y pues con esto nos damos cuenta de que no todo está perdido en esta humanidad.
Donc tous ces personnages, selon elle, sont comme des mains tendues vers le migrant que représente du coup Liborio dans son livre. Ce sont des mains tendues que tout migrant dont tout migrant peut avoir besoin.
Et la plus belle des mains tendues, c'est évidemment Irene. Elle, c'est une jeune fille, elle est magnifique. Dès le départ, il y a une fascination et c'est un coup de foudre pour Liborio. Il va provoquer, enfin en tout cas, il va vivre une baston terrible pour Irene. Irene, quelque part, c'est un amour qui est sublimé. Est-ce que c'est un amour qui est impossible?
Sí, a Irene la pongo como un amor ventanal, que es este amor que en el que Liborio la observa desde una ventana, pero ella decide si lo deja entrar o no, pero además Irene es como la luz de sus ojos de Liborio, entonces es eso, es un amor adolescente muy, muy bonito, pero pues Irene, como todas las mujeres en la novela, pues es una guerrera, es una chica que lucha por sobrevivir, como todos los demás.
Donc Irene, elle dit que c'est un amour bentanale, c'est un peu compliqué à traduire, c'est un amour qu'elle considère comme si c'était une fenêtre, comme si Liborio, il était amoureux d'Irene, mais à travers cette fenêtre, justement, il est en observation, il ne sait pas s'il laisse rentrer cet amour ou pas dans sa vie. Mais c'est sûr que pour Liborio, Irene, c'est la lumière de ses yeux et c'est un amour très adolescent finalement. et elle insiste sur l'idée de transcrire que Irene, c'est comme tous les personnages féminins dans son roman, c'est vraiment une guerrière, une lutteuse qui lutte pour survivre, donc qui travaille et qui essaye de gagner le pain de sa vie.
Et je fais une parenthèse pour les futurs lecteurs de Gabacho. Elle fait tous ses efforts pour maintenir en vie et pour sauver son grand-père qui vit avec elle, qui est un artiste peintre. Tiens, Charles, ça vous intéresse? Un artiste peintre connu, reconnu, mais qui est à la fin de sa vie et qui va mourir. Il a besoin d'un médicament horriblement cher, surtout aux États-Unis, et elle va voler ce médicament. Et il y a une scène de film remarquable, véritablement, où ils sont en train de fuir d'une pharmacie avec ces médicaments, avec Liborio et Irene, chacun courant de leur côté. Il s'ensuit en plus des problèmes après avec la police et également, et puis des choses qui vont tourner autour du cinéma dans ce livre. Et on sent que la jeunesse de l'écrivaine a fait en sorte qu'il y a des images comme ça qui mériteraient vraiment d'être collées sur un écran. Une question particulière, Aura, si vous voulez, et s'il vous plaît, comment est-ce que vous vivez le succès de votre roman et notamment en étant invité d'un festival littéraire ici en France?
Bueno, pues al final fue es como una catapulta de la que no he bajado.
Ah, j'ai compris ça.
Bueno, de acuerdo. Y sí, está todo demasiado, pasan muchas cosas en semanas, pero estar aquí en Francia pues es algo increíble, es la cuarta vez que vengo, pero siempre el público francés es sumamente hermoso, ni siquiera siento esa aceptación en mi propio país, sino es aquí en Francia donde la siento.
Donc effectivement, elle considère que tout ça a été comme une espèce de catapulte dont elle n'est toujours pas redescendue. Et il se passe beaucoup de choses, elle a beaucoup de choses à faire. C'est la quatrième fois qu'elle vient en France et elle sent vraiment une acceptation de son livre par le public français dont elle est très très touchée. Elle est vraiment très contente de la réception et par le public français, ce qui n'est pas vraiment exactement le cas au Mexique, c'est différent en tout cas.
Je vais en profiter pour poser une question à la Casa Latina qui ne va pas intéresser Aura. Aura qu'on va revoir tout à l'heure sur scène avec Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy qui est un auteur qui a été en résidence ici même à Manosque pendant quelques temps et qui bien sûr, franco-vénézuélien et parlant espagnol, ne pouvait pas passer à côté de la Casa Latina. Comment ça s'est passé chez vous cette rencontre, Sonia, avec Miguel?
Ça s'est très bien passé, on l'a reçu, on a fait une rencontre en binôme avec une autre écrivaine vénézuélienne qui était en résidence dans la maison mère de notre association qui est basée sur Aix. Donc on l'a reçu avec Silda Cordoliani, qui est écrivaine vénézuélienne également. Et c'était un très bon moment, un très bon moment d'échange entre les deux écrivains, avec le public. C'était chouette.
Et ça nous permet de saluer tout le travail que vous faites ici même à Manosque avec votre amie Yolaina, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Et un travail magnifique. Donc si vous voulez pratiquer l'espagnol et faire plus que dire simplement una cerveza por favor, allez tout simplement à la Casa Latina et vous ferez des progrès. C'est une bonne chose. Évidemment, j'ai gardé pour la fin le plus croustillant en ce qui concerne Aura Xilonen. C'est le style de votre écriture, Aura. Il y a énormément, il y a l'importance de la grossièreté. Est-ce que vous savez, par exemple, quel est le mot le plus utilisé de votre roman?
Non, je crois que fucking.
Exactement, c'est fuck. C'est fuck. Ça veut tout dire. Et on est déjà dans ma remarque. Alors, par exemple, il y a des phrases, c'est peut-être pas la peine de les traduire, mais attention, on n'est pas après 22h30, mais tant pis, c'est pas très grave. C'est une citation d'Aura Xilonen, par exemple, écoutez bien. Ces connards et abrutis d'écrivains, ils voient la vie en mode propre, sans tache qui pourrait salir leur page blanche de merde. difficile à dire quand même. Mais bon, tout le livre est comme ça, c'est-à-dire que tous les dialogues sont d'une violence et d'une crudité en termes de style qui sont incroyables. Il y a aussi des erreurs syntaxiques qui sont certainement voulues par la traduction et qui a voulu traduire cet esprit qui est développé dans ce livre. Par exemple, je vais essayer de le dire, c'est très difficile pour moi, les négations n'existent pas dans ce livre, dans les dialogues. Par exemple, cette phrase, « Je suis pas expert en ressuscitation ». Alors, je vous laisse méditer sur ressuscitation, mais « je suis pas », c'est systématique. Quand on apprend à écrire le français, on se fait taper sur les doigts quand on écrit « je suis pas ». Et vous, par contre, c'est votre style, Aura, ça.
Pues sí, de hecho el estilo es modificar la lengua totalmente, porque una lengua debe estar en constante cambio porque pues somos seres humanos y evolucionamos y nos adaptamos. Entonces la lengua asimismo debe modificarse, se le debe añadir muchas cosas. No debemos cortar las palabras, sino agregar palabras. Entonces eso fue lo que traté de hacer en la novela.
Donc évidemment son style c'est de son idée c'est d'être capable de modifier la langue puisque nous sommes des êtres humains que du coup on évolue et qu'elle considère que la langue doit faire la même chose, doit évoluer et qu'on soit à même d'ajouter à la langue en fait de l'enrichir et donc de créer notamment des mots comme elle le fait dans son roman.
Et si vous voulez faire des progrès en argot, même en argot français, vous pouvez sans aucun problème prendre des cours particuliers avec Aura Shilonen et Gabacho. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez un deuxième roman en préparation, Aura?
Pues sí, es que yo estoy estudiando cinematografía, entonces lo mejor que podría pasarme es trasladar esta novela a una película. Pero sí, ahorita estoy escribiendo la segunda parte de Gabacho, porque lo pensé para tres partes. Bueno, nací en un mundo de trilogías, entonces lo pensé para tres partes. Y bueno, sigo estudiando, estoy en la escuela y eso.
Donc actuellement elle étudie le cinéma, donc effectivement elle aimerait bien que ce roman nous arrive en film
sur grand écran,
grand écran. Mais elle est en cours de réalisation de la deuxième partie de Gabacho qu'elle a pensé d'ailleurs en trois parties. Elle dit qu'elle est née dans un monde de trilogie et donc elle l'a pensé en trois parties et elle est en train de réaliser la deuxième partie de Gabacho actuellement.
C'est Hermano, non?
Hermano.
Et Gabacho, ça veut dire gamin, c'est ça en espagnol? Est-ce que c'est ça? Non, alors expliquez-moi, Sonia. Vous voyez que mon espagnol, il est trop
Non,
trop
hermano, ça veut dire frère.
Ah, d'accord.
Et donc, Gabacho, au tout début, c'était la manière de désigner les Français qui émigraient en Espagne.
Et ben voilà.
Donc on appelait les Français, les Espagnols appelaient les Français les gabachos.
Ce qui est bien en radio, c'est qu'on est moins stupide après, c'est parfait.
Après, du coup, ça désigne les
jeunes.
Non.
Les
Oui, les Mexicains qui migrent. Qui migrent aux États-Unis, mais c'est cette idée plutôt ça s'est transformé au Mexique comme la désignation pour les États-Unis. Donc, par exemple, quelqu'un qu'on appelle Gabacho, c'est quelqu'un qui a migré aux États-Unis et qui essaie de s'enraciner dans les États-Unis et de prendre cette culture des États-Unis. Ça désigne aussi bien une personne que le territoire des États-Unis.
Très bien. Et donc, on attendra la suite avec impatience et puis on va guetter au niveau du cinéma ce qui se passe. Je rappelle donc à Aura Shilonen, vous êtes tout à l'heure sur scène à Manosque avec je crois que c'est sur la place de l'Hôtel de Ville avec Miguel Bonnefoy. C'est à 16h30 très exactement. C'est une rencontre animée par Sophie Joubert et qui sera traduite par Sonia Jean, que évidemment je remercie pour ses traductions. Merci à toutes les deux et bonne correspondance. À bientôt.
Muchas gracias.
retour sur notre direct sur Fréquence Mistral et on va revenir aussi en France après le Mexique et les États-Unis avec deux comédiennes qui proposent deux soirées, deux spectacles ici à Manosque, un café-théâtre qu'on adore, qui est pas très loin de la radio d'ailleurs, c'est à une cinquantaine de mètres, 100 mètres, c'est le café-théâtre La Fourmi et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Vidal qui va présenter Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est bien ça, Caroline?
Oui, c'est bien ça.
Et
bonjour.
C'est un spectacle que vous présentez avec un pianiste. On va revenir dans un instant avec vous sur ce spectacle qui aura lieu, je crois, de mémoire, c'est vendredi.
Non, celui-là, samedi soir.
Samedi soir, tout faux. Et par contre, Bernadette Résimon, lui, elle, vous présentez un spectacle sur les lettres de Calamity Jane à sa fille, et ce sera vendredi.
Ce sera vendredi à 20h30.
Alors, expliquez-nous, Bernadette, d'abord, dans quelle structure vous travaillez, et puis, ce que représente cette œuvre particulière, les lettres de Calamity Jane, qu'on connaît, hein, bien sûr, ce personnage étonnant du Far West, à sa fille. D'abord, franchement, Calamity Jane a eu un enfant.
Alors, Calamity Jane a sûrement eu un enfant, une fille. C'est pas sûr du tout que ce soit cette fille-là qui ait écrit les lettres à sa fille, parce que peut-être que les lettres à sa fille ont été écrites par sa fille, qui ne serait peut-être pas sa fille. Donc, la légende de Calamity, c'est comme ça. C'est une femme comme une femme d'aujourd'hui aussi, qui a beaucoup de difficultés à vivre et à exister en tant que femme. C'est-à-dire, comment fait-on quand on est une femme avec un enfant pour exister, pour aller boire des coups, pour aller s'amuser, pour aller travailler, et pour se faire respecter. Moi, je trouve que ce thème-là, il est encore actuel.
Il est d'actualité, surtout quand on pense à un certain Weinstein, par exemple. Et c'est vrai que l'ami Calamity Jane, avec un 765 pendu sur le côté, elle devait se faire respecter.
Elle se faisait respecter, mais elle n'a jamais tué personne.
C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit.
Ah non, c'est ce qu'elle dit dans ses lettres.
Donc il faut vraiment faire être crédule et rentrer dans votre spectacle. C'est un spectacle où l'on rit.
C'est un spectacle où l'on rit, où l'on pleure, où l'on est ému, et voilà, où on parle de nous, et on parle de nous proches.
Vous n'êtes pas seule sur scène, Bernadette?
Non, je ne suis pas seule, je suis avec Johanna Obelman, qui est le double de Calamity, ou si c'est peut-être que c'est moi quelquefois qui suis le double de Calamity, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a une grande différence d'âge entre nous deux. Donc, quelquefois, on confond. Le spectateur pense que c'est la fille. Mais non, c'est Calamity. Parce que même si on a un âge avancé, on peut même être très, très, très jeune et avoir envie de se bagarrer dans un bistrot. C'est tout à fait possible.
Pour l'instant, vous restez calme, s'il vous plaît. Et ça se passe vendredi soir, c'est chez Julie, au théâtre de La Fourmi.
Chez Julie, que je remercie beaucoup, parce que vraiment, elle a un accueil extraordinaire et elle a un intérêt pour les acteurs du coin, qui est très, très important, puisque grâce à Julie, on peut expérimenter, travailler et avoir des retours sur nos travaux et nos recherches.
Et c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses et où il y a de belles soirées, et ça n'est pas si fréquent sur Manos.
À 20h30, vendredi.
Vendredi, 20h30, lettre de Calamity Jane à sa fille. Et pour vous, Caroline, c'est donc samedi que ça se passe.
Oui, voilà, donc c'est samedi à 20h30 aussi, donc Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, où je suis accompagnée effectivement par Guillaume Garonne au piano, qui a créé la musique pour le spectacle.
De quoi ça parle, ces lettres particulières à Stefan Zweig?
Alors, ce ne sont pas des lettres, c'est une lettre.
Une seule.
Une lettre testamentaire, même. C'est une femme qui écrit à un homme qu'elle a connu lors de son enfance et pour qui elle a voué un amour éternel dès son plus jeune âge. et qu'elle a rencontré à plusieurs reprises dans sa vie, mais lui, à aucun moment, ne l'a reconnue. Et voilà, et là, à la veille de sa mort, on va dire, elle lui écrit enfin une lettre où elle lui raconte toute sa vie et tout l'amour qu'elle a eu pour lui durant son existence.
Vous avez l'habitude de vous produire sur scène seul, mais là, il y a un piano aussi avec vous. Je suppose que c'est un bonheur d'être avec un musicien sur scène.
Alors oui, c'est un bonheur, c'est un grand soutien. C'est vrai que... excusez-moi. Comme c'est un monologue et que je parle effectivement pendant un peu plus d'une heure vingt sur scène toute seule, c'était important pour moi, déjà d'une, dans la mise en scène, d'être accompagnée par un pianiste. Et puis, c'était aussi important qu'il y ait aussi la présence masculine qui puisse représenter l'homme à qui elle écrit. Et voilà, je suis très contente de notre partenariat, j'ai envie de dire. Guillaume a écrit la musique à partir d'une technique qu'il a mis en place pour d'autres projets. Donc, il a écrit à partir des notes de ma voix. Donc voilà, toute la mélodie est créée à partir des notes.
Donc c'est une musique unique, oui. Caroline Vidal, quoi, tout simplement.
Oui, voilà.
Puisque bon, si on met quelqu'un d'autre à côté, ça va pas marcher. C'est magnifique. C'est une belle idée. Vous êtes toutes les deux, vous participez en tant que comédienne et artiste du CRU, hein, puisque vous êtes originaire des Alpes de Haute-Provence, à ce qu'on appelle le off du Festival des Correspondances. Je suppose que c'est un événement aussi pour vous, ça, d'être dans un festival, même si c'est le off. On sait l'importance des off à Avignon, par exemple.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'aurais jamais effectivement pensé être un jour dans le programme des correspondances de Manosque.
Et là, c'est bien, c'est super.
Voilà, donc ouais. Dans le off, donc tout à la fin du programme, et nous y sommes quand même. Et puis surtout, je remercie Julie, voilà, oui, de nous avoir accueillis. Ce sera la deuxième fois, puisqu'elle nous avait déjà accueillis toutes les deux, nos deux compagnies, au mois de mars, dans le cadre du festival Fourmillement de femmes, à La Fourmi. Et donc, tout de suite, elle nous a proposé de revenir, justement, dans le cadre des correspondances, étant donné que ces deux spectacles-là sont écrits, enfin, les textes sont à partir de lettres.
Voilà. Bernadette, votre sentiment sur le fait d'effectivement d'être présente dans le programme des correspondances?
Moi, je suis contente d'être dans le off.
Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, peut-être qu'un jour vous serez dans le in, qui sait, et un jour on créera le out, peut-être, on verra bien, on verra bien. En tout cas, nous on est...
Je voudrais juste rajouter deux choses aussi, en fait, donc, parce que ce n'est pas tout, à La Fourmi aussi, le samedi 29 septembre aussi, à 18h, donc juste avant Lettre d'une inconnue, il y aura une lecture par l'association Actum Culture et Communication, qui sera donc Intimité de Jean-Paul Sartre. Et le dimanche matin aussi, le 30 septembre à 11h, Lettre à ma femme de Wolinski.
Comment voilà. Ne pas être ému par Lettre à ma femme de Georges Wolinski? Après la fin qu'a eue Georges Wolinski, évidemment. Donc, et il faut savoir aussi que Georges Wolinski a suivi une partie de sa carrière d'élève au lycée d'altitude à Briançon, donc pas très loin de chez nous, et qu'il était fasciné par le fait qu'il y ait des filles dans ce lycée. C'est assez étonnant, c'était une remarque qu'il avait faite, et c'était bien. Merci à toutes les deux et toutes mes amitiés, évidemment à Julie Dourdi et toute sa dynamique en bas au théâtre de La Fourmi, c'est la rue d'Aubette à Manosque, et puis bonne correspondance. Vous avez le temps quand même d'aller voir un peu les rencontres.
Cet après-midi, oui, on va
tracter.
très bien aussi. J'espère qu'on pourra voir des choses, et puis samedi aussi, demain, bon. Non, parce que je joue sur Marseille, mais...
C'est bien, vous venez de dire un mot important, vous avez tracté, oui. Hier à Manosque, il y a des gens qui tractaient aussi et qui rappelaient qu'un certain Jean Giono à Manosque était un immigré et qu'il était venu d'une famille réfugiée et qu'en ce moment il y a environ 15 000 personnes qui ont été comptabilisées, oui. Et qui sont morts en voulant rejoindre l'Europe. Et donc c'est important de rappeler ça aussi. Ici même, à Manosque, nous sommes aussi en France une terre d'immigration, et on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe actuellement en Méditerranée, mais aussi là où il y a des images qu'on ne voit pas, dans le Sahara, parce que la traversée du Sahara, elle aussi, laisse des cadavres et qui ne font pas la une des journaux, malheureusement. Et donc il faut que nos gouvernants prennent un peu en charge ces problèmes. On n'a pas la solution ici même dans une petite radio locale à Manosque, mais en tout cas on en est sensible. Et je salue tous les amis du réseau Éducation sans frontières qui ont fait cette distribution hier à Manosque. Donc on peut aussi distribuer des tracts pour un peu plus d'humanité dans notre pays. Merci à toutes les deux.
Merci,
je ferme
merci.
La parenthèse.
Merci.
Bonne correspondance et à très bientôt. Un dernier invité, ou plutôt deux derniers invités. Bonjour Serge Rinco.
Bonjour.
On va parler avec vous de Mathieu Riboulet, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il y a un spectacle très particulier que vous allez présenter, c'est demain, je crois, à Manosque, vendredi, hein, c'est ça ?
Absolument.
Et un spectacle qui s'appelle tout simplement « En l'absence de Mathieu Riboulet ». Il faut savoir que Mathieu était un habitué des correspondances et qu'on le voyait régulièrement. Il a fait plusieurs interventions ici sur mon antenne et il était impensable pour l'équipe des correspondances que Mathieu, entre parenthèses, ne soit pas là. Et c'est donc l'objet du spectacle que vous allez animer, que vous avez mis en scène, qui sera donné demain.
Alors, spectacle est peut-être un peu abusif. Cette grille qu'Olivier, Evelyne et Arnaud ont créée, je crois depuis 2 ans, le « En l'absence d'eux », pour célébrer un auteur récemment disparu. Il leur a paru évident qu'en 2018, ce serait en l'absence de Mathieu Riboulet. Donc c'est une forme, c'est une carte blanche pendant une heure où on doit évoquer l'homme, l'écrivain. Et donc, on m'a demandé, étant le compagnon de Mathieu, de prendre en charge cette évocation. Par ailleurs, je suis comédien. Et donc j'ai décidé, au départ je voulais pas venir, ça m'était extrêmement difficile, et puis je me suis dit que de toute façon si je ne venais pas ça serait quand même fait, et ça pouvait être fait sans que je sois tout à fait d'accord ou pas forcément d'accord avec les choix qui seraient faits, donc je me suis dit bah, tant qu'à faire je vais prendre ça en charge et je viens quoi. Et Mathieu au fil des ans a pu tisser des relations très particulières avec beaucoup, beaucoup de gens, mais c'était toujours... Il avait un don très particulier d'avoir une relation très, très intime avec la personne avec laquelle il était à chaque fois. Donc,
même si c'était très fugace.
Même si c'était très fugace, parce que c'était quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Et donc, il a, dans ce métier, il a beaucoup d'amis, alors certains très chers, très proches, d'autres qui sont extrêmement liés ou très admiratifs de son œuvre aussi, parce que c'était pas un petit écrivain. Et donc, en fait, j'ai réussi à avoir 4 fées avec moi pour évoquer Mathieu. Barbara Carlotti, qui est une amie de longue date, et pour laquelle Mathieu, il y a 10 ans, pour les 10e années des correspondances de Manosque, les organisateurs avaient eu l'idée d'apparier un auteur et un chanteur, et l'auteur écrivait une chanson pour le chanteur. Le chanteur faisait la composition, et pour les 10 ans, il y a eu un livre-disque absolument magnifique.
Qui s'appelle Les Fantaisies littéraires. On écoutera dans un instant.
Les Italiens.
Justement, Les Italiens, cette chanson.
Que Mathieu
superbe.
Avait écrit pour Barbara. Donc Barbara sera là, Mélisse de Carangal, Gwenaëlle Aubry, et l'actrice Pauline Jambé. Donc, à nous 5, et à la musique, on aura Bastien Lallemand, comme ça, qui nous fera des petites virgules sonores. Voilà, on va évoquer Mathieu. Alors, évoquer un homme et évoquer un auteur comme lui en une heure, c'est un peu une gageure, quoi. C'est voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé une idée très simple que je ne vous dirai pas.
On va rester dans le secret.
Voilà, ce sera demain à 18h dans la petite salle du théâtre Jean Lebleu. Voilà, où on va. Enfin, c'est dans le programme. Voilà, on va vous passer sous le nez comme ça des petits bouts de Riboulet. Pris exclusivement dans son œuvre, et pour certains ce sera du souvenir, c'est un parfum qu'on connaît déjà, pour d'autres ce sera bah, tout à fait nouveau, et puis ils iront voir ou pas.
Alors, mais Mathieu Riboulet, excusez-moi Serge, je vais quand même balancer, en termes de style, c'est extrêmement direct aussi comme style d'écriture.
Bah, c'est pas écrit avec du sang de navet.
Exactement.
C'est pas de la littérature de Fiot.
C'est voilà.
Il avait la puissance du verbe. Il savait manier la langue parfaitement. Des phrases longues qui parfois un peu, il fallait s'y reprendre à deux fois, et il était content quand les lecteurs s'y reprenaient à deux fois. Il disait ben oui, il faut faire aussi le travail.
Moi, je fais mon travail.
Je fais mon travail de mon côté, à vous de faire le vôtre, quoi. Je vais pas tout vous prémâcher. Et effectivement, Mathieu, au fil des ans de son œuvre, comme ça, qui s'est développé, qui a pris une ampleur absolument considérable au fil des ans. Ne mâchez pas ces mots. Disait avec une extrême élégance son indignation de la violence du monde, de la déréliction politique dans laquelle on est. Enfin voilà, c'est avec beaucoup de, pas de panache, parce qu'il est, c'était quelqu'un d'extrêmement on peut dire simple, en fait, même si c'était tout ça très sophistiqué, mais voilà, il n'y avait pas de...
Parmi ses derniers écrits, Serge Rinko, il y a ses écrits magnifiques avec Patrick Boucheron, Prendre date, sur ce qui s'est passé au début de janvier 2015, si on parlait de Volinsky tout à l'heure, c'est un hasard. Ces deux personnages, un grand historien et puis un grand romancier, tout d'un coup, ils sont pas habitués à traiter l'actualité. Ils se mettent à dialoguer par écrit, à dire il faut qu'on laisse une trace de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Mmh. Et c'est magnifique. C'est un petit livre qui se lit très bien, et tout le monde se souvient du 7 janvier 2015.
Ça,
c'est quelque chose qui nous est collé à la peau. Mmh. Qu'on soit journaliste comme moi, artiste comme vous, on a été traumatisé par cette violence extrême, par les jours qui ont suivi. Et ces quelques jours sont consignés dans ce petit livre, Prendre date.
Mathieu et Patrick, nous, on rentrait d'Allemagne le 6 janvier, le 7 janvier, on a été cueillis. Le 7 au soir, on était à la République. On était à un bout de la place. Patrick et Mélanie et les enfants étaient à l'autre bout. On s'est pas vus. Mais tout de suite, on s'est appelés. Enfin, et Mathieu et Patrick avaient une relation pareille, très particulière, comme ça. Et on a été complètement bouleversés sous le coup de cette chose-là. Et à un moment, ils se sont dit, mais il faut absolument qu'on laisse une trace de dans quel état ces événements-là nous mettent. Et voilà, l'idée est née, et ils se sont mis... Alors, on parle d'une correspondance, oui et non, en fait, c'est vraiment... Ils dialoguaient tous les jours au téléphone. Et puis, du moment où ils ont commencé à mettre ça par écrit, les choses se sont faites naturellement. Voilà, ça, c'est... Et le texte est absolument magnifique. Moi, c'est un texte que je porte sur scène, toujours avec Mark City, dans une mise en scène de Delphine Siavaldini. Et qui est un texte qui fait beaucoup peur au directeur de théâtre, ce qui est hallucinant quand on y pense. Et
oui, parce que ça a chamboulé notre société quand même,
oui,
cette
oui,
période.
Mais ce qui est
et d'avoir le courage de parler, de le dire aussi simplement, sans enjeu, sans je vais me présenter à une élection ou j'ai besoin d'argent.
Non,
c'est absolument
pas donneur de leçons. Ça cartographie les faits. Et dans quel état ça met deux hommes, donc on peut parler d'intellectuels, hein, parce que c'est pas un vrai mot, donc un historien et pas des moindres, et puis un écrivain pas des moindres, et qui les deux sont sidérés et stupéfaits de... Mais voilà, ça arrive chez nous, et pourquoi on en est là, et qu'est-ce qui s'est passé ?
Et après, quand on lit effectivement Prendre date, on peut essayer de trouver en filigrane qui dit quoi ? Est-ce que c'est l'historien ? Est-ce que c'est l'écrivain ? Et puis tout compte fait, ce sont deux êtres humains qui réagissent à une injustice horrible, horrible de dégommer comme ça une rédaction d'un journal, et puis après des passants dans la rue, enfin bref, et la réaction évidemment d'un peuple par rapport à ça. Votre spectacle tout à l'heure, non c'est demain,
18h,
en l'absence de Mathieu Riboulet, avec les quatre fées que vous avez citées aussi, oui. Vous êtes bien accompagné,
oui.
Maïlys de Kerangal qui sera présente avec Patrick Boucheron aussi, dimanche matin,
oui.
Ici même à Manosque, c'est une bonne chose, mais je vous remercie d'avoir été, nous avoir d'avoir fait partager ses émotions et en même temps d'avoir parlé aussi bien de ses livres, de cette activité, de cette actualité aussi, Mathieu Riboulet, et des correspondances. Je vous souhaite un très bon festival, une très belle prestation. On va se quitter, on va finir cette émission, évidemment, en écoutant les Italiens.
Absolument.
On ne peut pas ne pas manquer cette magnifique chanson qui est la rencontre sublime entre Mathieu Riboulet et son écriture très, très particulière. La voix magnifique de Barbara Carlotti, qui était entièrement sous le charme il y a 10 ans, alors pensez maintenant, de l'œuvre de Mathieu Riboulet. Et je vous renvoie à cette magnifique publication, Les Fantaisies littéraires, où on entend Dominica, Bertrand Belin, enfin toute la famille des correspondances, avec des auteurs magnifiques comme Éric Reinhardt, Yannick Enel, bien sûr Mathieu Riboulet, et puis d'autres encore, qui ont fourni des textes magnifiques, qui sont mis en musique par des artistes tout aussi magnifiques. Envoyez les Italiens. Merci James. À bientôt.
Merci et bon festival à tous et à toutes.
J'aimais un qui ne m'aimait pas. J'avais le cœur à prendre. Lui aimait qui ne l'aimait pas. Avait le cœur transi. S'en prendre à qui, à lui, à moi. Au monde, j'ai préféré.
Et je sais le chemin solide sous mes pieds.